Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un nouvel attentat dans le nord du Burkina Faso. Précision dans un instant de Yahya Boudani de Radio France Internationale. Des monarchies du Golfe inquiètent des ripostes iraniennes à l'élimination par les États-Unis. Du général Qassem Soleimani, décryptage de Christian Chesneau. L'Irak en première ligne, après cette intervention américaine en première ligne et surtout au bord du gouffre, analyse de Nabila Hamel. Reportage à Paris, dans le cortège des manifestants cheminots et gilets jaunes opposés à la réforme des retraites. Et enfin, les observations de Sonia Saïd, écologue et spécialiste du renouvellement forestier et de la diversité végétale, après les ravages des incendies en Australie. Depuis 2015, des attaques attribuées à des groupes djihadistes se multiplient au Burkina Faso, essentiellement dans l'est et le nord du pays. Ce samedi, non loin de la frontière avec le Mali, un engin artisanal a explosé au passage d'un car qui transportait principalement des collégiens. Les précisions de Yahya Boudani de RFI.
L'engin improvisé a explosé au passage de trois véhicules dans le convoi. Ces minibus avaient à leur bord plusieurs passagers et parmi eux de nombreux élèves. Ces élèves revenaient de leur village après les fêtes de fin d'année et regagnaient leur localité d'études, raconte une autorité administrative. Seul un minibus a été touché par l'explosion de la mine artisanale. 14 personnes sont décédées sur place, selon nos sources. On signale également plusieurs blessés, dont 4 dans un état grave. On ne sait pas pour le moment combien d'élèves ont été touchés par cette attaque, selon une source gouvernementale qui précise toutefois que des élèves figurent parmi les victimes.
Yahya Boudani à Ouagadougou. Les autorités tchadiennes rapatrièrent les 1200 soldats en poste depuis des mois au Nigeria dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Des centaines de civils qui s'étaient installés près des bases militaires tchadiennes ont pris la fuite de peur d'être la proie des djihadistes. Près de 48 heures après l'élimination par une frappe américaine du général iranien Qassem Soleimani, intense activité diplomatique avec pour dominante des appels à la retenue dans l'attente de représailles promises par Téhéran. Cet après-midi, déclaration commune des ministres russes et iraniens des Affaires étrangères, je cite, les actions des États-Unis constituent une violation flagrante du droit international fondamental. Fin de citation. Les monarchies du Golfe appréhendent, elles, la réaction du régime iranien. Christian Chesneau.
Même si en coulisses, les monarchies du Golfe se réjouissent de l'élimination du patron de la force Al-Quds, elles ne peuvent le faire trop ouvertement. Elles savent qu'elles pourraient se retrouver en première ligne en cas de représailles iraniennes. Le ministre d'État aux Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, Anwar Gargash, a appelé sur Twitter à la retenue et à la sagesse devant les risques d'escalade. L'Arabie Saoudite connaît bien la puissance de nuisance de son voisin. Riyad n'a pas oublié l'attaque drone-missile du 14 septembre dernier contre les installations pétrolières d'Aramco dans l'est du royaume. Sa production de brut avait été fortement perturbée, mais surtout, les Saoudiens avaient été sidérés par la précision de ces frappes. Les Émirats Arabes Unis ont eux été victimes en 2010 de sabotage de tankers dans le golfe Persique, des actions clandestines qu'ils attribuent aux gardiens de la révolution et qu'ils interprètent comme autant d'avertissements sans frais. Seul le Qatar est plus serein, puisque depuis le blocus de ses voisins, il s'est rapproché de Téhéran et entretient de bonnes relations. Les pays du Golfe sont certes protégés par plusieurs bases américaines. Le Qatar accueille la plus grande de la région et Bahreïn est le siège de la 5e flotte. Mais tous regardent la crise avec inquiétude et ne veulent pas devenir des victimes collatérales du bras de fer entre Washington et Téhéran.
Le pays qui risque de souffrir durablement des turbulences et violences consécutives à cet engrenage, pourrait-on dire, irano-américain, est, Nabila Hamel, sans conteste, l'Irak.
Oui, si l'Irak avait veillé à préserver ses liens avec le puissant voisin iranien en même temps qu'avec les États-Unis, allié objectif dans la dernière guerre contre l'organisation État islamique, sa crainte aujourd'hui est d'être pris en étau entre Washington et Téhéran, justement. Or, vous le disiez, le pays est considérablement affaibli, économiquement déjà, 8 millions de pauvres, défaillance des services publics, chômage, sans compter le fléau de la corruption qui touche les élites politiques. Dans un pays producteur de pétrole, l'on comprend prend le ras-le-bol qui a fait sortir des milliers d'Irakiens dans les rues depuis des mois. Puis, un tabou a été levé lorsqu'une partie des contestataires a osé s'insurger contre l'influence politique de plus en plus grande de l'Iran. Résultat, une paralysie des institutions et un pays sans chef de gouvernement. S'ajoutent désormais quelques autres facteurs aggravants, avec le départ annoncé de travailleurs américains du secteur pétrolier et la suspension des vols vers Bagdad décidés par certaines compagnies arabes. Au plan sécuritaire, les milices sont toujours légion, comme la milice pro-iranienne Hashed, dont le numéro 2 a été visé lors du raid américain de jeudi soir. L'influent chef chiite Moqtada Sadr, qui a soutenu dans un premier temps les revendications des manifestants, est revenu à plus de modération vis-à-vis de l'Iran et vient de réactiver sa milice, l'armée du Mahdi. De manière générale, ces factions militaires ont démultiplié leurs capacités lors de la guerre menée contre les djihadistes. Quelles seront donc leurs réactions face à Washington, qui promet d'envoyer plus de 3000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient? Il y a déjà des appels au départ des 5200 soldats américains présents sur le sol irakien. Le Parlement irakien pourrait d'ailleurs être saisi de ce débat lors de la réunion qui doit se tenir demain. Bref, la frappe américaine n'aura fait que réactiver la rhétorique de l'anti-américanisme, expliquait Renaud Mansour de l'Institut britannique Chatham House.
Merci à vous, merci de vos explications, Nabila Hamel. Plus de 380 000 personnes tuées en Syrie, dont plus de 115 000 civils depuis le début de la guerre en 2011. Dernier bilan en date publié par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le conflit a précipité sur les routes de l'exil des millions de Syriens. En France, plusieurs dizaines de gilets jaunes sont entrés cet après-midi dans la gare Matabiau de Toulouse et ont bloqué des rails en soutien aux cheminots grévistes avant de rejoindre sans heurts. Des centaines de manifestants dans les rues du centre-ville cortègent dans les principales localités du pays contre la réforme des retraites. Le mouvement de contestation entrera demain dans son deuxième mois. C'est un reportage dans les rues de Paris de Benjamin Mathieu.
On a des gilets jaunes en tête de cortège et des cheminots à l'arrière comme Benoît, 34 ans. Il est en grève depuis le 5 décembre et a perdu toute sa paye du mois de décembre, soit 2000 euros pour ce cheminot CGT. Cette détermination joue en faveur du mouvement.
Voilà, en fait, le gouvernement a essayé de nous isoler, de nous faire passer pour des privilégiés qui défendent leur avantage. Ça n'a pas marché, hein. L'opinion publique, elle s'est pas retournée contre les grévistes. Ensuite, il a essayé de dire qu'on prenait les gens en otage au moment des vacances, qu'on prenait les fêtes de fin d'année, qu'on allait gâcher tout ça. Bon, ça l'a pas pris non plus, quoi. L'opinion publique, elle est toujours de notre côté, donc... Moi, je suis plutôt optimiste de ce côté-là.
Les syndicats veulent mobiliser au maximum jeudi prochain pour mettre la pression sur le gouvernement qui, lui, reste inflexible. Parmi les quelques milliers de personnes qui manifestent dans le calme, il y a JP, un retraité limougeaud de 75 ans, déguisé en gaulois réfractaire. C'est un gilet jaune et son déguisement, pas pour rigoler.
Qu'est-ce que vous en pensez que lorsque vous avez les petits vieux à la retraite, comme moi, qui n'ont plus rien dans leur assiette? C'est inadmissible.
Cette histoire, ce mouvement de grève, Agathe, une jeune cheminot, le raconte dans une bande dessinée qu'elle distribue dans le cortège, moquant Emmanuel Macron et Édouard Philippe.
On passe pour des extrémistes parce qu'on n'en veut pas. Et c'est ce que je voulais dénoncer, donc je l'ai fait de manière un petit peu humoristique. On arrive au socle des choses qui ne sont pas négociables pour moi. Voilà. La solidarité, ça ne se négocie pas.
Une BD qui se termine par ces mots. Réveillez-vous, les grévistes se disent en tout cas prêts à faire durer le mouvement.
L'auteur de l'attaque au couteau qui a failli un mort et deux blessés à Villejuif dans le Val-de-Marne se serait converti à l'islam en 2017, aurait bondi sur ses victimes au cri d'Allahu Akbar. L'assaillant était suivi dans un établissement psychiatrique jusqu'en mai dernier, information que l'on doit à la procureure de Créteil. L'Australie s'attendait à juste raison à une nouvelle aggravation des catastrophiques feux de forêt ce week-end. Après l'évacuation de dizaines de milliers de personnes, l'état d'urgence a été décrété dans le sud-est de l'île continent. La région la plus peuplée, 100 000 personnes ont été invitées à évacuer dans trois états. Sonia Saïd est écologue, spécialiste du renouvellement forestier et de la diversité végétale. Elle apporte des précisions sur les conséquences qu'ont ces incendies sur la biodiversité.
C'est 480 millions d'animaux qui ont été tués ou blessés ou forcés de se déplacer. Mais bon, les conséquences sont graves. Comme leur habitat, par exemple l'habitat des koalas ou des kangourous a brûlé, il y a près de 30% des koalas qui ont été tués. L'absence de leur habitat fait que ça va être difficile d'avoir des nouveaux de ces espèces présentes dans ces habitats-là le temps que la forêt se refasse et que les espèces puissent revenir. Et tout ce qui est insectes, on n'en parle pas. La flore, on n'en parle pas. et les conséquences sont graves aussi pour ces espèces-là qui sont souvent pas répertoriées, donc on les connaît pas, surtout les insectes. On a très peu de connaissances sur les insectes, ce qui veut dire tout ce qui est dans le sol, tout a brûlé, donc il faut que la forêt se refasse. En fait, c'est tout l'écosystème qui est en péril. Et donc, les conséquences, que les mammifères ont besoin des plantes, les plantes ont besoin de ce qu'il y a dans le sol, ont besoin des vers de terre, ont besoin des champignons, ont besoin de beaucoup de choses. Donc, ce qui fait que si tout l'écosystème ne se refait pas, les mammifères, ils vont pas pouvoir revenir seuls. Il faut que tout l'écosystème se refasse. On a rarement eu des incendies aussi importants et aussi graves. C'est pas Tchernobyl, mais les conséquences sont graves d'une autre façon, mais elles sont graves aussi. Et ça va mettre, je peux pas vous dire, mais des décennies avant que ça redevienne comme avant.
Des propos recueillis par Nouran Mahmoudi. Le temps de demain dimanche pour la France métropolitaine, du soleil au sud et de la grisaille au nord. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau, à la technique Alex Dang.